Bienvenue à toi, d'où que tu viennes, qui que tu sois. Quelle que soit ton histoire, ton chemin sur la planète bleue, il se trouve que tu as fait le choix de passer ce moment ce matin ensemble. Sois bienvenu. Que tu sois en paix ou en colère, rassuré ou dans le doute, quel que soit l'endroit de ta route, sois bienvenu. Chaque matin de dimanche, ici, dans ce lieu, nous nous retrouvons. Et chaque dimanche, nous avons des couleurs différentes, des formes, mais toujours le désir de rendre un culte à Dieu, rendre un culte, cultiver la relation à Dieu. Ce matin, nous allons passer un temps ensemble, un temps avec pour but d'exprimer et nourrir notre vie spirituelle, notre relation à Dieu. Pour l'expression, nous allons utiliser la musique, le chant, les paroles, et dans l'autre direction, un moment où nous entendrons une réflexion basée sur les textes bibliques. La Bible étant centrale pour nous, elle nous inspire dans notre chemin, structure par ses exemples de vie, par ses valeurs, notre chemin spirituel. Ainsi, nous allons chanter, écouter, répondre dans le silence pour que la perspective de Dieu dans notre vie s'exprime par ses moyens, que nous puissions lier notre quotidien à la transcendance du Dieu de la Bible. Peut-être des questions vont surgir. N'hésite pas à la fin de questionner les personnes qui sont sur scène, que tu vois ici. Nous serons à disposition dans le moment du café, qui est un moment d'échange convivial, qui vient après le moment ensemble. Nous ne sommes pas plus que toi. C'est simplement une question visuelle qui rend plus pratique de voir les personnes à qui on s'adresse. La vie de la communauté s'exprime d'autres jours que le dimanche, en particulier pour les adultes qui désirent approfondir un texte de la Bible. Cela se passe le mardi, dans ses locaux à 20h15, et en ce moment sur le livre de Daniel, le chapitre 8. Pour les jeunes de 11 à 15 ans qui souhaitent découvrir des problématiques, discuter, échanger, c'est le caté, le vendredi, entre 17 et 19h. Et puis dimanche prochain, le 1er mai, une autre forme pour le culte, avec des baptêmes qui auront lieu ici, ainsi qu'un repas qui suivra le moment. Et André, il y a une annonce.
Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Le GEAP, groupe d'accompagnement et d'évaluation des pasteurs, vous lui avez confié une mission à titre expérimental il y a à présent presque un an. Nous prévoyons vous donner dans le courant du mois de juin un retour de notre travail global sous la forme de ce que pourrait être un cahier des charges. Nous y travaillons. Ce qui nous intéresse particulièrement ces temps, c'est de finaliser le volet évaluation des pasteurs. Un grand mot, mais je garde le sourire. C'est pour cette raison que nous avons annoncé, il y a quelque temps déjà, une soirée portes ouvertes pour demain, le lundi 25 avril. Votre avis, celui de chacun et chacune, votre ressenti, vos critiques, formulées de façon constructive, nous intéressent. Nous avons à cœur vraiment que tous ensemble, Église, pasteurs et conseils, nous tirions à la même corde, que nous avancions vers des objectifs communs, en harmonie, en faisant honneur à notre Dieu. Si vous avez des suggestions à faire, des appréciations à donner, des questions à poser, un mot de reconnaissance à faire passer à nos pasteurs. Ils ne seront pas là, mais ce n'est pas interdit de faire passer un petit mot. Nous serons là dans ces locaux de 19h à 21h. Nous pouvons partager en individuel ou en petit groupe. Alors n'hésitez pas à venir. Si ce soir-là ne vous convient pas, n'hésitez pas à nous interpeller à l'occasion ou à nous appeler pour prendre un rendez-vous ou autre à notre adresse geap@emerin.ch. À demain soir.
Merci.
La prière, c'est l'expression de l'être humain vers Dieu, expression qui englobe tous les contenus, quels qu'ils soient, quelles que soient les choses à dire, à transmettre. Et je vais maintenant prier pour présenter ce moment à Dieu. Dieu de l'univers, nous voulons venir à toi ce matin, te prier que nous passions un moment qui soit significatif pour toi et pour nous, dans toutes les formes et les expressions que nous allons avoir. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.
les inspirer, les conduire là où toi tu veux leur guider. Que ce soit béni, mes enfants, à vous de les rejoindre.
Thank you.
Je suis veuf, et dans la dernière année de vie de mon épouse, la tentation était grande pour moi de me dire que c'était la dernière fois qu'on était au resto, la dernière fois qu'on voyageait, la dernière fois de faire ou telle chose ensemble. Ce faisant, ça teintait le moment d'une couleur de tristesse, plutôt que de savourer pleinement chaque instant que nous avions ensemble. Alors j'ai dû me mobiliser, faire le choix de simplement vivre pleinement et laisser à la tristesse et la nostalgie un autre temps. Il y aurait sa place aussi plus tard, mais ce n'était pas le moment. Ce moment-là, c'était le moment de savourer. Et on chante encore ta bienveillance.
Bonjour à chacun, à chacune. Heureux de vous retrouver ce matin. Peut-être vous êtes tout nouveau ici, soyez particulièrement les bienvenus. Si jamais, je m'appelle Philippe Anchaud, je suis un des deux pasteurs ici avec ma collègue Célina, et c'est un honneur de vivre encore un culte ensemble. Il y a 15 jours, c'était le dimanche des rameaux. Un dimanche qui rappelle cette entrée tellement étonnante de Jésus à Jérusalem, roi d'un jour. Quelques jours plus tard, la foule qui l'avait pourtant acclamé, cette foule criera « Crucifie-le ! Crucifie-le ! Roi d'un jour !» Et puis vendredi dernier, il y a 10 jours, nous nous sommes souvenus, à la petite chapelle à côté, des événements de la croix, la semaine sainte, qui finit par conduire Jésus à la croix. Là, à la croix, il dépose sa vie pour nous. Il la donne. La vie d'un juste pour des injustes. Pour que les injustes deviennent des justes. Le grand échange. Et puis, dimanche dernier, ici, nous avons fêté la résurrection. Il est ressuscité. Vraiment ressuscité. Pâques, c'est que quelque chose est arrivé dans l'histoire. Quelque chose est arrivé dans l'histoire. Quelque chose que nous ne pouvons pas ignorer. Quelque chose est arrivé qui change tout si on y prête un peu d'attention. Sur la croix, Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Dans le tombeau, il a vaincu la mort. Quelque chose est arrivé. Et nulle part ailleurs, dans ce monde malade du péché, nulle part ailleurs, nous ne pouvons trouver un tel espoir éternel. C'est pour ça que nous mettons un peu d'intensité dans les chants que nous chantons. Parce qu'en Jésus, nous avons trouvé ce que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs. Ce qui me fait vibrer, c'est Pâques. Tant de force, tant d'émotion, tant d'amour, tant de passion. Pâques, c'est Dieu qui se tue à nous dire qu'il nous aime. Et aujourd'hui, à une semaine de Pâques, j'aimerais réfléchir avec vous à un fait précurseur. Un fait précurseur incontournable. Quelque chose qui arrive justement à quelques jours de Pâques. Et j'aimerais essayer de le faire à l'aide d'un petit mot. On aura de la peine à faire plus petit. Un petit mot, de 2 lettres qui peut tout changer. Un petit mot de 2 lettres qui peut tout changer. Alors il faut m'aider un coup. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des mots croisés? Ah ouais, tu fais des mots croisés, trop bien. Ah, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Quelqu'un d'autre? Il y a des gens qui font des mots croisés. Anne, tu fais des mots croisés, me voilà rassurée. Des mots fléchés. Alors, c'est quoi la différence, mots croisés, mots fléchés?
C'est plus facile, les fléchés.
D'accord. C'est comme les parcours, quand ils sont fléchés, c'est plus facile que quand ils sont croisés. Vous faites donc des mots croisés? Alors, aidez-moi. Vous savez, un petit mot de 2 lettres pour mettre Paris en bouteille. Ah ouais, il y a des gens qui font des mots croisés. Un petit mot de 2 lettres pour mettre Paris en bouteille. Si, ou alors, on a aussi dans les mots croisés... une haute note, non? Quelque chose comme ça? Si. Alors, on va essayer de voir si le PowerPoint fonctionne. s'il fonctionne, un petit mot de deux lettres qui peut tout changer, si. Dans Jean 11, que nous allons lire dans un instant, ce petit mot de deux lettres, si, il revient trois fois. Et nous verrons que ce petit mot peut changer bien des choses selon ce qu'on en fait. Jean 11, moi j'aime tellement ce chapitre de l'Évangile. Il est rempli d'émotions. Les gens pleurent. Jésus pleure. Nous sommes confrontés à un deuil. Et Éric, qui expérimente le veuvage, comme d'autres parmi vous, peuvent dire à quel point un deuil est d'une intensité incroyable. Et là, nous sommes confrontés à un deuil. Vous savez, à un de ces moments rares dans la vie où il n'y a pas, il n'y a plus de faux semblants. On est devant la vérité des choses. Un deuil. Mais là, en même temps, nous entendons dans ce deuil l'une des déclarations les plus fortes que Jésus ait jamais prononcées. Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il ne mourra pas. Je suis la résurrection et la vie. Et enfin, dans la dernière partie du chapitre, nous découvrons pour quelles raisons précises les autorités décident de faire mourir Jésus. Si Jésus avait été là, si tu crois, si nous le laissons faire, un petit mot de deux lettres, trois phrases ici. Et j'aimerais prendre ces trois phrases pour réfléchir avec vous au si du regret, au si de la foi et au si de la peur. Alors nous allons prendre le récit au moment où Jésus a appris la mort de son ami Lazare. Au moment où il se met en route, il arrive dans son village et il va rencontrer là les deux sœurs de Lazare, le défunt. Ces deux sœurs qui s'appellent Marthe et Marie. Et j'invite Séverine à faire une première lecture.
Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a 4 jours déjà. Béthanie est près de Jérusalem, à 3 kilomètres environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûre. » Jésus lui dit, « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe répond, « Oui, oui, je le sais. Il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. » Jésus lui dit, « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » Est-ce que tu crois cela? Marthe répond à Jésus, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Après que Marthe a dit cela, elle part appeler sa sœur Marie. Elle lui dit tout bas, « Le Maître est là et il te demande de venir. » Quand Marie entend cela, elle se lève tout de suite et elle va trouver Jésus. Jésus n'est pas encore entré dans le village. Il est toujours à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Des Juifs sont dans la maison avec Marie pour la consoler. Ils voient qu'elle s'est levée tout de suite et qu'elle est sortie. Ils pensent, elle part vers la tombe pour pleurer là-bas. Alors ils la suivent. Marie arrive à l'endroit où Jésus se trouve. Quand elle le voit, elle se jette à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Jésus voit qu'elle pleure. Les Juifs qui sont venus avec elle pleurent aussi. Alors Jésus est bouleversé et troublé. Il demande, « Où est-ce que vous l'avez mis ?» Ils lui répondent, « Seigneur, viens et tu verras. » Jésus se met à pleurer. Les Juifs disent, « Regardez, il aimait beaucoup Lazare. » Mais d'autres disent, « Il a ouvert les yeux de l'aveugle et il n'a pas pu empêcher Lazare de mourir. »
Le si du regret. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Deux fois, nous entendons cette phrase. Marthe le dit, puis Marie le dit. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Franchement, c'est presque plus qu'un regret encore. C'est un reproche qui est fait à Jésus. Si Jésus avait été là, eh ben Lazare serait pas mort. Qui le dit ? Deux sœurs qui viennent de perdre leur frère. Deux sœurs, amies de Jésus, qui l'avaient appelé au secours. On voit ça au tout début du chapitre. Deux sœurs qui ne comprennent pas que Jésus ne soit pas arrivé à temps. Parce que normalement, quand on apprend qu'un être cher est très malade, on se dépêche d'aller le voir pour lui dire par notre présence que nous l'aimons. Et au début du chapitre, nous lisons que quand Jésus a appris que Lazare, son ami, était malade et que Marthe et Marie, ses amis, l'attendaient, eh bien, il s'est dépêché de ne rien faire pendant deux jours. Autrement dit, Jésus se rend à Béthanie, dans le village de ses amis, en toute tranquillité. En toute tranquillité. Parce qu'il marche dans la confiance en Dieu. Il a attendu en toute tranquillité, parce qu'il percevait que dans le geste qu'il allait accomplir, apparaîtrait la gloire de Dieu. Mais les disciples ne comprennent pas ça. Et les deux sœurs non plus ne comprennent pas ça. Jésus a pris son temps et le pire est arrivé, il aurait dû être là. Lorsque les gens sont confrontés au deuil, il n'est pas rare que les regrets et les reproches se mêlent. Ah, si seulement le médecin avait posé son diagnostic à temps. Si j'avais pu lui parler avant la fin. Si il avait été plus prudent. Les parents, les enfants, la famille, le corps médical, la justice, le défunt, tout le monde peut se voir reprocher quelque chose. Et en plus de la tristesse, le deuil suscite aussi de la colère et de la culpabilité. Et en disant si, si seulement, nous imaginons que les choses auraient pu être différentes, n'est-ce pas ? Nous ressassons des scénarios impossibles qui auraient permis que les choses se passent autrement. Notre pauvre tête est en train d'encaisser, d'assimiler quelque chose d'impensable. Cela fait partie d'une espèce de réorganisation intérieure qui s'appelle le deuil. Maintenant, est-ce que le « si » du regret s'entend seulement dans le contexte d'un deuil ? Bien sûr que non. Nombre de fois où j'entends « si Dieu existait !»« Si seulement j'avais travaillé avant mes examens !» Pense à vous les jeunes. « Si seulement je n'avais pas réagi ainsi, si seulement je n'avais pas trop bu, si seulement j'avais réfléchi un peu avant de me mettre en couple, si seulement j'avais pris tel ou tel avertissement au sérieux, si seulement j'avais osé parler à temps, si seulement j'avais écouté mon corps, si seulement mes parents n'avaient pas divorcé. » Ce qui se passe dans notre tête, c'est une sorte de deuil par rapport à un idéal, par rapport à un projet de vie. Quelque chose s'est passé, m'a interrompu, et cela a des conséquences pour ma vie. Des conséquences que nous ne pouvons souvent plus changer. Je sais qu'on peut rattraper un certain nombre de fautes et d'erreurs sans trop de difficultés, heureusement. Mais il y en a d'autres qui sont inscrites à jamais dans notre parcours personnel. Ce sont celles qui suscitent le plus de regrets. Et exprimer le regret, c'est normal. C'est bon. Rester dans le regret, ça serait pas bon. Alors il faut combien de temps pour s'en libérer ? Cela va dépendre des personnes. Cela va dépendre de la gravité des faits. Cela va dépendre des circonstances. Un mois, un an, 10 ans, une vie. Je crois qu'il faut être réaliste ici. Ça peut prendre du temps. Et en même temps, il faut entamer une démarche de foi, Eric l'a dit, pour ne pas se laisser enfermer par le passé, définir par le passé. Cette démarche de foi implique que nous donnons à Jésus la possibilité de changer notre vie, de la visiter et de la requalifier. Et c'est là qu'intervient mon deuxième si, le si de la foi. On va lire ensemble, on va écouter la lecture des versets 38 à 44.
De nouveau, Jésus est bouleversé et il part vers la tombe. C'est une grotte avec une grosse pierre placée devant l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il doit déjà sentir mauvais. Il est dans la tombe depuis 4 jours. » Mais Jésus lui répond, « Je t'ai dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » On enlève donc la pierre. Jésus lève les yeux vers le ciel et dit, « Père, je te dis merci parce que tu m'as écouté. Tu m'écoutes toujours, je le sais. Mais je dis cela à cause des gens qui sont autour de moi. Ainsi, ils pourront croire que tu m'as envoyé. » Ensuite, Jésus crie d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et Lazare sort, lui qui était mort. Il a les pieds et les mains attachés avec des bandes de tissu. Son visage est enveloppé dans un linge. Jésus dit aux gens, « Enlevez-lui tout cela et laissez-le partir. »
Le si de la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En fait, Jésus ne dit pas que cela. Il dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Alors, quand l'a-t-il dit ? On va chercher en vain à quel moment il l'aurait dit sous cette forme précisément. Mais, dans les versets 23 à 26, Jésus dit quelque chose de très semblable. Ton frère reviendra à la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui, celle qui place toute sa confiance en moi, vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? Crois-tu cela ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est donc en rapport avec la résurrection que Jésus le dit. C'est en rapport avec lui. Si tu places ta confiance en Christ, tu vivras. Tu ressusciteras au dernier jour. Tu verras la gloire de Dieu. Si tu ne crois pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est à prendre à titre très personnel, ça. La foi en Jésus, la vraie foi, nous fait entrer dans la vie éternelle dès maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ok, fastoche à dire. C'est facile. La phrase, elle est facile. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est de la punchline. Mais comment en être sûr ? Comment être convaincu que ce n'est pas une fake news ? Comment est-ce que Marthe et Marie peuvent-elles en être sûres ? Comment est-ce que nous pouvons en être sûrs ? Eh bien, puisque Jésus les aime, il leur en donne la preuve. Il manifeste la gloire de Dieu sous leurs yeux. Lazare sort. Et Lazare sort. Il manifeste la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et pour nous, cela vaut aussi pour la manifestation de la gloire de Dieu ici et maintenant dans nos petites vies à nous. Prenez la liste de vos échecs. Prenez la liste de vos déceptions. Prenez la liste de vos regrets. Prenez la liste de vos actes manqués. Prenez la liste de vos petites morts, de vos grandes morts. Puis prenez un gros feutre pour écrire par-dessus cette liste. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi bien placée change les choses. Vous voyez la différence que ça fera ? Vous allez lever la tête. Vous allez regarder en avant. Vous allez échapper à l'esclavage du péché. Vous allez échapper à l'esclavage du passé. Vous allez pouvoir construire, même si les blessures sont profondes, même si vous ne pouvez rien changer au fait, même si tout n'est pas réparable, vous allez pouvoir construire. Je ne sais pas trop si les deux sœurs, Marthe et Marie, j'ai beaucoup de tendresse pour elles, je ne sais pas trop si elles avaient vraiment une grande foi. J'ai l'impression que c'est un peu la petite foi qui est la mienne. Marthe, elle dit au Seigneur, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Qu'est-ce qu'elle attend là ? Elle attend la résurrection de son frère. Ah, pas sûr, hein ? Elle parle de la résurrection au dernier jour. Et d'ailleurs, quand Jésus demande qu'on enlève la pierre devant le tombeau, Marc lui dit, « Mais Seigneur, quand même, sérieux, faut pas exagérer, quoi. Ça fait 4 jours qu'il est là, il doit sentir, on est en Israël, il fait chaud, Seigneur. Ok, mais n'exagère pas. » Elle s'attend pas à un miracle. Elle s'attend pas à un miracle. Qu'est-ce qui m'incite, moi-même, à croire en 2022 à la résurrection de Jésus-Christ? C'est bien de batailler avec cette idée. Il faut se poser la question. Si Jésus lui-même n'est pas ressuscité des morts, alors il s'est décomposé dans une tombe comme n'importe quel autre homme. mort et décomposé. Dans ce cas, Jésus est un enseignant comme un autre, un enseignant de qualité, il a dit plein de trucs formidables, mais il ne peut plus vraiment maintenant nous aider. Et une fois de plus, nous nous retrouverions orphelins et seuls. Nous devons donc nous contenter de la sagesse et de la spéculation. Si je veux être vraiment sauvé, si vraiment je veux voir la gloire de Dieu, ce qu'il faut, c'est la foi. La foi. Et la foi est la foi en ce dont mon cœur, mon âme, a vraiment besoin. Même pour mon intelligence spéculative. Car c'est mon âme avec ses passions, c'est mon âme, pour ainsi dire, avec sa chair et son sang, qu'il faut sauver. Et pas mon esprit abstrait. Peut-être pouvons-nous dire que seul l'amour peut croire à la résurrection. Où donc est la foi qui permet de voir la gloire de Dieu? C'est la foi en Jésus. C'est pas la foi dans ce qui pourrait se passer, dans les circonstances, dans la taille de la pierre devant le tombeau, dans ma longue liste de regrets. Ce n'est pas la taille ou l'intensité de la foi qui compte, mais c'est son objet. C'est une grande confiance en Jésus, au point de le laisser faire à sa manière, y compris quand les circonstances me dépassent. Et j'espère que ce sera la même chose pour nous. L'amour pour Jésus, la foi en Jésus, au point de le laisser faire à sa manière. Et justement, et on finira avec ça, il y en a qui ne voulaient pas le laisser faire à sa manière. Je vous invite à écouter la lecture des versets 45 à 53.
Beaucoup de Juifs sont allés chez Marie et ils ont vu ce que Jésus a fait. Ils se mettent à croire en lui. Mais certains d'entre eux vont trouver les pharisiens et ils leur racontent ce que Jésus a fait. Alors, les chefs des prêtres et les pharisiens réunissent le tribunal religieux et ils disent « Cet homme fait beaucoup de signes étonnants. Qu'est-ce que nous allons faire ? Si nous le laissons continuer, tout le monde va croire en lui. » Ensuite, les Romains vont agir, ils vont détruire notre temple et notre nation. L'un des chefs juifs, nommé Caïphe, est grand prêtre cette année-là. Il leur dit, « Vous n'y comprenez rien. Réfléchissez donc. Pour vous, il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. De cette façon, la nation entière ne sera pas détruite. » Les paroles de Caïphe ne viennent pas de lui-même. En effet, cette année-là, c'est lui qui était grand prêtre, et il parle comme un prophète. Il annonce que Jésus doit mourir pour la nation juive. Il doit mourir non seulement pour cette nation, mais aussi pour rassembler en un seul peuple les enfants de Dieu, qui sont de tous les côtés. À partir de ce jour-là, les chefs décident de faire mourir Jésus.
Le si du regret, le si de la foi, le si de la peur. Les plus hautes autorités religieuses du pays avaient peur. Elles avaient les chocottes, les pépettes. Cet homme accomplit trop de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tout le monde va croire en lui. Ah ben ouais, le risque, il était réel. Avant Jésus, il y a eu quantité d'autres soi-disant messies. Et puis il y en a eu après, des prophètes, des messies qui soulevaient le peuple contre Rome. Et la révolte de l'an 66, où il y a même eu deux messies concurrents en même temps, a vu la destruction du temple. La révolte de l'an 132 a vu la ville rasée. Donc, le risque était réel, si nous le laissons faire. Mais tenir compte que de ce risque, c'est faire deux choses. C'est sacrifier la vérité sur l'autel du pragmatisme, et c'est dire le plus fort possible que Jésus ne peut pas être le Messie. Si nous le laissons faire. Si je laisse faire Jésus à sa guise. Si je l'accueille dans ma vie. Si je laisse faire Jésus dans ma vie, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que j'aurai des ennuis avec mes potes ? Avec mon copain, ma copine ? Est-ce que j'aurai à me priver de tout ? Est-ce que la vie, elle aura encore du goût ? Est-ce que mes projets en subiront un coup ? Est-ce que je devrais changer ? Si je le laisse faire. Et quand on devient chrétien, chrétienne, par choix personnel, il y a bien des choses qui changent, pour le mieux. J'en suis témoin dans la vie de tant de personnes. Parce que Dieu vient changer la vie en profondeur. Il vient offrir des ressources nouvelles par sa grâce. Et parce que le Seigneur a son mot à dire sur mes choix de vie, oui, parfois, certains projets devront être abandonnés, puis d'autres viendront avantageusement les remplacer. Marcher avec le Christ, c'est un demi-tour, c'est un changement de cap, le meilleur cap qui puisse être pris. Les gens ont parfois en tête l'image de ces moines, vous savez, de ces bonnes sœurs qui se privent de tout. Alors que le monde nous appartient, dit l'apôtre Paul, le monde nous appartient. Les gens imaginent parfois une vie de frustration. Alors que non, le Seigneur, c'est celui qui nous donne un cadre de vie stable, paisible, sécurisant, stimulant, motivant, de formidables projets à son service et au service des autres. Alors dire, si nous le laissons faire, si je le laisse faire, signifie que des avantages personnels sont plus importants que la vérité. Dire comme les chefs religieux d'autrefois, si nous le laissons faire, c'est dire très concrètement qu'en fait, je veux rien qui change dans ma vie. Je veux pas que Jésus vienne me sauver. Je préfère croupir dans ma gouille. Le Seigneur n'est pas à la hauteur. Et à ce moment-là, le si de la peur devient le si du rejet. Mais pour nous, je dis ceci. Si vous le laissez faire, il vous sauvera. Il vous pardonnera. Il vous accompagnera. Au millimètre près, il sera avec vous. Si vous le laissez faire, il vous transformera, il vous surprendra, il vous ouvrira un tout nouveau champ des possibles, rien n'est exclu. Si vous le laissez faire, vous verrez la gloire de Dieu. Concrètement, pratiquement, durablement. Mais il faut conclure, il est temps. Moi je demande juste qu'il nous soit donné de vivre cette vie-là, vous savez, cette vie avec toutes ces limites, toutes ces contradictions, toutes ces aspérités, cette vie un peu compliquée, cette vie avec les deuils que nous connaissons, les très grands deuils et les petits deuils. Vivre cette vie, non dans les regrets, ça tue les regrets, non dans la peur, ça paralyse la peur. Mais avec la foi, la certitude que Jésus est la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en lui, il vivra. Elle vivra. Vraiment, éternellement, pleinement. Si quelqu'un croit en lui, il vivra vraiment, éternellement, pleinement. S'il y a quelque part ce qu'on partage très modestement avec vous ce matin, ça vous interpelle, si ça vous pose question, si vous avez besoin d'en parler, besoin d'un temps d'écoute, besoin d'un temps de prière, la petite équipe que vous voyez sur l'estrade ce matin, mon ami Eric à la présidence, moi-même, l'équipe de musiciens, on est à votre disposition à la fin de ce culte. N'hésitez surtout pas à venir nous trouver, on a un peu de temps, il y a le café, puis on n'est pas pressé. Amis français, n'oubliez pas d'aller voter. Mais au reste, on n'est pas pressé. Et puis peut-être ça vaut le coup de ne pas passer à côté ce matin, ou dans la semaine qui vient, mais remettez pas à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Si quelqu'un croit en lui, il vivra éternellement. Nous allons finir avec un chant. Et j'invite l'équipe musicale à nous accompagner dans ce chant. Après quelques instants juste de réflexion personnelle, je te laisse démarrer, Xavier. Merci.
Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai Dieu à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, que tu
Oscar Wilde disait « Il vaut mieux des remords que des regrets ». Quelle qualité, quelle saveur est-ce que je donne à ma vie? Quelle intensité dans tous les aspects de mon existence est-ce que j'ai envie de vivre? Quelqu'un d'autre a dit « Vivre comme si je devais mourir demain et apprendre comme si je devais vivre pour toujours ». Bien faire, bien être, bien vivre se construit chaque jour, chaque instant, chaque moment, dans ma spécificité personnelle avec mes qualités et les défauts de mes qualités. L'expression de ma vie spirituelle avec Dieu est un ancrage, une trajectoire pour ma vie dans mon quotidien et l'après. Que les idées et les paroles de ce moment que nous avons passé ensemble soient bénéfiques à ton chemin, ta vie.
Vous pouvez vous lever.
Nous allons terminer par quelques mots pour nous accompagner dans la semaine. Nous appelons cela une bénédiction. Que le Dieu de la Bible, qui surpasse toute intelligence, fasse reporter sur toi sa paix, sa joie, son accueil, sa compassion, sa guérison. Va en paix.
C'est super chouette.